Chapitre 2. Travaux pour une couronne. Le roi Charles IV avait dû s'aliter le jour de Noël. À l'épiphanie, l'émirs et physiciens déjà le déclaraient perdu. La cause de cette fièvre qui le consumait, de cette toux déchirante qui secouait sa poitrine amaigrie, de ses crachats sanglants, l'émir levait les épaules d'un geste d'impuissance. La malédiction, voyons. La malédiction qui accablait la descendance de Philippe le Bel. Les remèdes sont inopérants contre une malédiction, et la cour et le peuple partageaient cette certitude. Louis Hutin était mort à 27 ans par manœuvre criminelle. Philippe le Long était trépassé à 29 ans d'avoir bu en Poitou l'eau de puits empoisonnée. Charles IV avait résisté jusqu'à 33 ans. Il atteignait la limite. Il est bien connu que les maudits ne peuvent pas dépasser l'âge du Christ. À nous, mon frère, de nous saisir à présent du gouvernement du royaume et de le tenir de main ferme, avait dit le comte de Beaumont, Robert d'Artois, à son cousin et beau-frère Philippe de Valois. Et cette fois, avait-il ajouté, nous ne nous laisserons pas gagner à la course par ma tante Mao. D'ailleurs, elle n'a plus de gendre à pousser. Ces deux-là se montraient en belle santé. Robert d'Artois, à 41 ans, était toujours le même colosse qui devait se baisser pour franchir les portes et pouvait terrasser un bœuf en le prenant par les cornes. Maître en procédure, en chicane, en intrigue, il avait assez prouvé depuis 20 ans son savoir-faire, et par les soulèvements d'Artois, et dans le déclenchement de la guerre de Guyenne, et en bien d'autres occasions. La découverte du scandale de la Tour de Nesle était un peu le fruit de ses œuvres. Si la reine Isabelle et son amant Lord Mortimer avaient pu réunir une armée en Hainaut, soulever l'Angleterre et renverser Édouard II, c'était en partie grâce à lui. Et il ne se sentait pas gêné d'avoir sur les mains le sang de Marguerite de Bourgogne. Au conseil du faible Charles IV, sa voix, dans les récentes années, s'élevait plus fermement que celle du souverain. Philippe de Valois, de 6 ans son cadet, ne possédait pas tant de génie. Mais haut et fort, la poitrine large, la démarche noble, et faisant presque figure de géant quand Robert n'était pas à côté de lui, il avait une belle prestance de chevalier qui prévenait en sa faveur. Et surtout, il bénéficiait du souvenir laissé par son père, le fameux Charles de Valois, le prince le plus turbulent, le plus aventureux de son temps, coureur de trônes fantômes et de croisades manquées, mais grand homme de guerre, et dont il s'efforçait de copier la prodigalité et la magnificence. Si Philippe de Valois, jusqu'à ce jour, n'avait pas encore étonné l'Europe par ses talents, on lui accordait toutefois confiance. Il brillait en tournoi, qui était sa passion. L'ardeur qu'il y déployait n'était pas chose négligeable. « Philippe, tu seras régent, je m'y engage, » disait Robert d'Artois. « Régent et peut-être roi, si Dieu le veut. C'est-à-dire si dans 2 mois, la reine, ma nièce, qui est déjà grosse jusqu'au menton, n'accouche pas d'un fils. Pauvre cousin Charles, il ne verra pas cet enfant-là qu'il souhaitait tant. » Et même si ce doit être un garçon, tu n'en exerceras pas moins la régence pour 20 ans. Or, en 20 ans... » Il prolongeait sa pensée d'un grand geste du bras qui en appelait à tous les hasards possibles, à la mortalité infantile, aux accidents de chasse, aux desseins impénétrables de la Providence. « Et toi, loyal comme je te sais, » continuait le géant, « tu agiras pour qu'on me restitue enfin mon comté d'Artois, » que Mao, la voleuse, l'empoisonneuse, détient injustement, ainsi que la pairie qui s'y rattache. Songe que je ne suis pas même père, n'est-ce pas bouffon ? J'en ai honte pour ta sœur, qui est mon épouse. » Philippe avait abaissé par 2 fois son grand nez charnu et fermé les paupières d'un air entendu. « Robert, je te rendrai bonne justice si je suis mis en état de l'administrer. Tu peux compter sur mon soutien. » Les meilleures amitiés sont celles qui se fondent sur des intérêts communs et la construction d'un même avenir. Robert d'Artois, auquel aucune tâche ne répugnait, se chargea d'aller à Vincennes faire entendre à Charles le Bel que ses jours étaient comptés et qu'il avait quelques dispositions à prendre, comme de convoquer les pairs de toute urgence et de leur recommander Philippe de Valois pour assurer la régence. Et même, afin de mieux éclairer leur choix, pourquoi ne pas confier à Philippe, dès à présent, le gouvernement du royaume, en lui déléguant les pouvoirs ? Nous sommes tous mortels, tous, mon bon cousin, disait Robert, éclatant de santé, et qui faisait trembler par son pas puissant le lit de l'agonisant. Charles IV n'était guère en capacité de refuser, et trouvait même du soulagement à ce qu'on le délivrât de tout souci. Il ne songeait qu'à retenir sa vie qui lui fuyait entre les dents. Philippe de Valois reçut donc la délégation royale et lança l'ordre de convocation des pairs. Robert d'Artois aussitôt se mit en campagne. D'abord auprès de son neveu d'Évreux, garçon jeune encore, 21 ans, de gentille tournure, mais assez peu entreprenant. Il était marié à la fille de Marguerite de Bourgogne, Jeanne la Petite, comme on continuait de l'appeler, bien qu'elle eût à présent 17 ans, et qui avait été écartée de la succession de France à la mort du Hutin. La loi salique, en fait, avait été inventée à son propos, et afin de l'éliminer, ceci d'autant plus aisément que l'inconduite de sa mère jetait un doute sérieux sur sa légitimité. En compensation, et pour apaiser la maison de Bourgogne, on avait reconnu à Jeanne la Petite l'héritage de Navarre. Mais on s'était peu hâté de tenir cette promesse, et les deux derniers rois de France avaient gardé le titre de roi de Navarre. L'occasion était belle pour Philippe d'Évreux, s'il avait ressemblé tant soit peu à son oncle Robert d'Artois, d'ouvrir là-dessus une énorme chicane, de contester la loi successorale et de réclamer au nom de sa femme les deux couronnes. Mais Robert, usant de son ascendant, eut vite fait de rouler comme poisson en pâte ce compétiteur possible. « Tu auras cette Navarre qui t'est due, mon bon neveu, aussitôt que mon frère Valois sera régent. J'en fais une affaire de famille, que j'ai posée en condition à Philippe pour lui porter mon appui. Roi de Navarre, tu vas être. C'est une couronne qui n'est pas à dédaigner et que je te conseille, pour ma part, de te mettre au plus tôt sur la tête, avant qu'on ne te la vienne discuter. Car, parlons bas, la petite Jeanne, ton épouse, serait mieux assurée de son droit si sa mère avait eu la cuisse moins folâtre. » Dans cette grande ruée qui va se faire, il faut te ménager des soutiens. Tu as le nôtre. Et ne t'avise pas d'écouter ton oncle de Bourgogne. Il ne te conduira pour son propre service qu'à commettre des sottises. Philippe Régent, fonde-toi là-dessus. » Ainsi, moyennant l'abandon définitif de la Navarre, Philippe de Valois disposait déjà, outre la sienne propre, de deux voix. Louis de Bourbon venait d'être créé duc quelques semaines auparavant, en même temps qu'il avait reçu en apanage le comté de la Marche. Il était l'aîné de la famille. Dans le cas d'une trop grande confusion autour de la régence, sa qualité de petit-fils de Saint-Louis pouvait lui servir à rallier plusieurs suffrages. Sa décision, de toute manière, pèserait sur le conseil des pairs. Or, ce boiteux était lâche. Entrer en rivalité avec le puissant parti valois eût été une entreprise digne d'un homme de plus de courage. En outre, son fils avait épousé une sœur de Philippe de Valois. Robert laissa comprendre à Louis de Bourbon que plus vite il se rallierait, plus vite lui seraient garantis les avantages en terre et en titre qu'il avait accumulés au cours du règne précédent. Trois voix. Le duc de Bretagne, à peine arrivé de Vannes et ses coffres pas encore déballés, vit Robert d'Artois se dresser en son hôtel.
« Nous appuyons Philippe, n'est-ce pas? Tu es bien d'accord? Avec Philippe, si pieux, si loyal, nous sommes certains d'avoir un bon roi, je veux dire un bon régent. »
Jean de Bretagne ne pouvait que se déclarer pour Philippe de Valois. N'avait-il pas épousé une sœur de Philippe, Isabelle, morte à l'âge de 8 ans, il est vrai, mais les liens d'affection n'en subsistaient pas moins. Robert, pour renforcer sa démarche, avait amené sa mère, Blanche de Bretagne, consanguine du duc, toute vieille, toute petite, toute ridée, et parfaitement dénuée de pensée politique, mais qui opinait à tout ce que voulait son géant de fils. Or, Jean de Bretagne s'occupait davantage des affaires de son duché que de celles de France.
Eh bien, oui, Philippe, pourquoi pas, puisque tout le monde semblait si empressé à le désigner.
Cela devenait en quelque sorte la campagne des beaux-frères. On appela en renfort Guy de Châtillon, comte de Blois, qui n'était nullement père, et même le comte Guillaume de Hainaut, simplement parce qu'ils avaient épousé deux autres sœurs de Philippe. Le grand parentage valois commençait à apparaître déjà comme la vraie famille de France. Guillaume de Hainaut mariait en ce moment sa fille au jeune roi d'Angleterre. Soit on n'y voyait pas d'obstacle, et même on y trouverait peut-être un jour des avantages. mais il avait été bien avisé de se faire représenter aux noces par son frère Jean plutôt que de s'y rendre lui-même, car c'était ici, à Paris, qu'allaient se produire les événements importants. Guillaume le Bon ne souhaitait-il pas depuis longtemps que la terre de Blaton, patrimoine de la couronne de France, enclavée dans ses états, lui fût cédée? On lui donnerait Blaton pour presque rien, un rachat symbolique, si Philippe occupait la régence. Quant à Guy de Blois, il était l'un des derniers barons à avoir conservé le droit de battre monnaie. Malheureusement, et malgré ce droit, il manquait d'argent et les dettes l'étranglaient.
« Guy, mon aimé parent, ton droit de battage te sera racheté. Ce sera notre premier soin. »
Robert, en peu de jours, avait accompli un solide travail.
« Tu vois, Philippe, tu vois, » disait-il à son candidat, « combien les mariages arrangés par ton père nous aident à présent. On dit qu'abondance de filles est grand-peine pour les familles. Ce sage homme, que Dieu l'ait en sa garde, a bien su se servir de toutes tes sœurs. » « Oui, mais il faudra achever de payer les dots, » répondait Philippe. « Plusieurs n'ont été versées qu'au quart, à commencer par celle de la chère Jeanne, mon épouse, » rappelait Robert d'Artois. « Mais dès lors que nous aurons tout pouvoir sur le trésor... »
Plus difficile à rallier fut le comte de Flandre, Louis de Crécy et de Nevers. Car lui n'était pas un beau-frère et demandait autre chose qu'une terre ou de l'argent. Il voulait la reconquête de son comté dont ses sujets l'avaient chassé. Pour le convaincre, il fallut lui promettre une guerre.
Louis, mon cousin, Flandre vous sera rendue, et par les armes, nous vous en faisons serment.
Là-dessus, Robert, qui pensait à tout, de courir de nouveau à Vincennes pour presser Charles IV de parfaire son testament. Charles n'était plus qu'une ombre de roi, crachant ce qui lui restait de poumons. Or, tout moribond qu'il fût, il se souvint à ce moment-là du projet de croisade que son oncle Charles de Valois lui avait naguère mis en tête. Projet d'année en année différé. Les subsides de l'Église avaient été employés à d'autres fins. Et puis, Charles de Valois était mort. Dans le mal qui le détruisait, Charles IV ne devait-il pas reconnaître un châtiment pour cette promesse non tenue, ce vœu non accompli? Le sang de poitrine dont il tachait ses draps lui rappelait la croix rouge qu'il n'avait pas cousu sur son manteau. Alors, dans l'espérance d'amadouer le ciel et de négocier quelques survies, il fit ajouter à son testament ses volontés concernant la Terre Sainte.
« Car mon intention est d'y aller de mon vivant, » dicta-t-il. « Et si de mon vivant ne se peut, que 50 000 livres soient données au premier passage général qui se fera. » Robert enrageait. Ce niais de Charles jusqu'au bout aurait de ses sots entêtements.
On lui demandait simplement de léguer 3 000 livres au chancelier Jean de Cherchemont, autant au maréchal de Try et à messire Mille de Noyers, président de la Chambre aux Comptes, pour leurs loyaux services rendus à la couronne, et parce que leurs fonctions les faisaient siéger de droit au Conseil des Pairs.
« Et le connétable ?» murmura le roi agonisant.
Robert haussa les épaules. Le connétable gaucher de Châtillon avait 70 ans. Il était sourd comme une marmite et possédait des biens à ne savoir qu'en faire. Ce n'était pas à son âge que se développait l'appétit de l'or. On raya le connétable. En revanche, Robert, avec beaucoup d'attention, aida Charles IV à composer la liste des exécuteurs testamentaires, car cette liste constituait comme un ordre de préséance parmi les grands du royaume. Le comte Philippe de Valois en tête, le comte Philippe d'Évreux et puis lui-même, Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger. Cela fait, on s'occupa de rallier les pairs ecclésiastiques. Guillaume de Try, duc archevêque de Reims, avait été précepteur de Philippe de Valois. Et puis, Robert venait de faire coucher son frère, le maréchal, sur le testament royal pour 3 000 livres qu'on sut rendre tintantes. On n'aurait pas de mécompte de ce côté-là. Le duc archevêque de Langres était acquis de longue date aux Valois, et tout également leur était dévoué le comte évêque de Beauvais, Jean de Marigny, dernier frère survivant du grand Enguerrand. Vieille trahison, vieux remords, service mutuel avaient tissé de solides liens. Restaient les évêques de Châlons, de Laon et de Noyon. Ces derniers, on le savait, feraient corps avec le duc Eudes de Bourgogne.
« Ah ! Pour le bourguignon, s'écria Robert d'Artois en écartant les bras, cela, Philippe, c'est ton affaire. Je ne peux rien auprès de lui. Nous sommes lance à lance. Mais tu as épousé sa sœur. Tu dois bien avoir quelque action sur lui.
Eudes IV n'était pas un aigle de gouvernement. Toutefois, il se rappelait les leçons de sa défunte mère, la duchesse Agnès, la dernière fille de Saint-Louis, et comment lui-même, pour reconnaître la régence de Philippe le Long, avait gagné le rattachement de la Bourgogne-Comté à la Bourgogne-Duché. Eux, dans cette occasion, avaient épousé la petite fille de Mahaut d'Artois, de 14 ans plus jeune que lui, ce dont il ne se plaignait pas maintenant qu'elle était nubile. La question de l'héritage d'Artois fut la première qu'il posa lorsque, arrivant de Dijon, il s'enferma avec Philippe de Valois.
« Il est bien entendu qu'au jour du trépas de Mahaut, le comté d'Artois ira à sa fille, la reine Jeanne la Veuve, pour ensuite revenir à la duchesse, mon épouse. J'insiste fort sur ce point, mon cousin, car je connais les prétentions de Robert sur l'Artois. Il les a assez clamées. »
Ces grands princes ne mettaient pas moins de défiante âpreté à défendre leurs droits d'héritage sur les quartiers du royaume que des brus à se disputer les gobelets et les draps dans une succession de pauvres.
Jugements par deux fois ont été rendus qui ont attribué l'Artois à la comtesse Mahaut, répondit Philippe de Valois. Si aucun fait nouveau ne vient étayer les requêtes de Robert, l'Artois passera à votre épouse, mon frère.
Vous n'y voyez point d'empêchement.
Je n'en vois mis.
Ainsi, le loyal Valois, le preux chevalier, le héros de tournoi, avait donné à ses deux cousins, à ses deux beaux-frères, deux promesses contradictoires. Honnête toutefois dans sa duplicité, il rapporta à Robert d'Artois son entretien avec Eudes, et Robert l'approuva pleinement.
« L'important, dit ce dernier, est d'obtenir la voix du bourguignon, et peu importe qu'il s'ancre dans la tête un droit qu'il n'a pas. Des faits nouveaux, lui as-tu dit ? Eh bien, nous en produirons, mon frère, et je ne te ferai pas manquer à ta parole. Allons, tout est au mieux. »
Il ne restait plus qu'à attendre, ultime formalité, le décès du roi, en souhaitant qu'il se produisît assez vite, pendant que cette belle conjonction de princes s'était réunie autour de Philippe de Valois. Le dernier fils du roi de fer rendit l'âme la veille de la Chandeleur, et la nouvelle du deuil royal se répandit dans Paris le lendemain matin, en même temps que l'odeur des crêpes chaudes. Tout semblait devoir se dérouler selon le plan parfaitement agencé par Robert d'Artois, quand, à l'aube même du jour fixé pour le Conseil des Pères, arriva un évêque anglais, au visage chafouin, aux yeux fatigués, sortant d'une litière couverte de boue, et qui venait représenter les droits de la reine Isabelle.